sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Comme chaque jour à 13h15, nous retrouvons Franck Ferrand pour une plongée au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, une histoire dramatique. Bonjour Franck.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Vous dites dramatique, on pourrait même dire tragique, car il s'agit sans doute de la plus grande catastrophe du XVIIIe siècle, ce tremblement de terre de Lisbonne qui a eu des répercussions jusqu'aux confins du monde habité. On était en 1755, Voltaire en a parlé bien sûr, mais vous allez voir qu'il était loin d'être le seul. Le tremblement de terre de Lisbonne, c'est l'événement au c'est la catastrophe que nous allons revivre maintenant.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ce tremblement de terre a été un des premiers grands événements qui ait été médiatisé, si j'ose employer ce terme, dans toute l'Europe, avec les moyens limités de l'époque bien sûr, mais dites-vous par exemple qu'en France, il n'y a pas eu un bourg, un village, où les grands moments de cette catastrophe hors du commun n'aient été connus et commentés. Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le Portugal de l'époque, c'est que la Lisbonne sur laquelle s'abat ce fléau, sont un Portugal et une Lisbonne en mauvais état. Sur un plan politique, ce pays n'est plus alors que l'ombre de ce qu'il a pu être. Certes, il a retrouvé son indépendance depuis un bon siècle déjà, mais les 60 ans de souveraineté espagnole au siècle précédent l'ont miné. Les Portugais ne sont sortis de la domination des soldats espagnols que pour tomber sous la tutelle des marchands anglais. On pourrait presque dire que le pays est alors devenu une colonie marchande de l'Angleterre. Finalement, le seul domaine où les Portugais de ce milieu de XVIIIe siècle puissent faire montre d'énergie et de zèle, c'est la religion, véritable sport national, si j'ose ainsi dire, qui aboutit à des excès pittoresques. On a calculé, par exemple, que si l'on faisait dire des messes à toute la population, c'est-à-dire si toute la population était entrée dans les ordres, il aurait fallu, pour venir à bout de toutes les messes déjà commandées par les familles portugaises, plus de 500 ans. Comment s'étonner dans ces conditions que Lisbonne soit littéralement couverte d'églises, de monastères qui sont les noyaux et les centres d'activité de la ville en dehors des rives du Tage qui demeurent certes fourmillantes. D'une façon générale, Lisbonne a conservé un plan médiéval et une physionomie très archaïque. Les voyageurs qui la visitent n'en finissent pas de relever ses nombreuses insuffisances, les archaïsmes qui la distinguent de toutes les grandes autres métropoles européennes. Naturellement, face à ce tableau assez sombre, un certain nombre de Portugais, et notamment ceux qui sont en contact avec l'Angleterre dont je vous parle, qui est le principal partenaire commercial, un certain nombre de Portugais réagissent. C'est le cas notamment du Premier ministre Sébastien José de Carvalho et Melo, que nous appellerons, si vous le voulez bien, le marquis de Pombal, même si à cette époque-là, il ne porte pas encore ce titre. Cet homme est un volontariste et il va jouer dans la réaction à la catastrophe, dans la réaction au séisme, un rôle essentiel. C'est donc dans ce contexte un peu particulier que survient la formidable catastrophe, la plus importante de loin de toute l'histoire du Portugal. A priori, on pourrait se dire que pour Pombal, ça tombe au plus mal. En fait, vous allez voir que bien exploitées, certaines catastrophes peuvent se révéler, sinon providentielles évidemment, du moins assez opportunes. Avant d'entrer dans le vif de l'événement, laissez-moi juste vous en donner la cause. Cet énorme tremblement de terre qui va être ressenti jusqu'en Scandinavie et sur la côte est de l'Amérique, ce séisme d'une magnitude extrême est dû à l'enfoncement de la plaque tectonique méditerranéenne et africaine sous la plaque européenne. L'épicentre a été localisé nettement au sud de Lisbonne, en fait à l'ouest du détroit de Gibraltar, ce qui explique que le Maroc ait été touché très fortement lui aussi. Plusieurs villes du nord marocain sont complètement détruites par le séisme. Si on parle toujours de Lisbonne, c'est que sur cette métropole, les effets de la catastrophe vont s'enchaîner en une cascade de plus petites catastrophes aussi spectaculaires que malheureusement meurtrières. «
C'est un extrait de la 41e symphonie de Mozart que vous venez d'écouter. Et nous parlons du tremblement de terre de Lisbonne, n'est-ce pas Franck ?
Alors je vous ai dit que le Portugal était alors très religieux. Il faut imaginer des foules immenses qui ont afflué de partout en ce matin de la Toussaint 1755. C'est que ça tombe mal. Comme par hasard, le séisme va tomber un jour de grande fête religieuse. Des foules immenses donc qui sont dans les grands sanctuaires de Lisbonne. Et d'autant plus que cet automne est particulièrement doux et agréable. Il fait même chaud en ce matin du 1er novembre 1755, entre 18 et 20 de nos degrés. Le ciel est bleu sans un nuage, la mer paraît calme. Déjà, l'atmosphère est un peu difficile à respirer, ce qui contraste avec ce temps superbe. Vers 9h30 du matin, une drôle d'odeur de soufre envahit l'atmosphère. On entend un grondement sourd, comme une sorte de grand bruit souterrain qui ferait penser à un orage, sauf qu'encore une fois, le temps n'est pas orageux. Étrange. C'est à 10h-20 que de l'étrange, on va basculer carrément dans l'horreur.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand relate pour vous aujourd'hui le tremblement de terre de Lisbonne en 1755.
Il est 10h-20 du matin, en ce matin de la Toussaint 1755, lorsque survient la première secousse, qui est une secousse verticale, ce qui a pour effet d'être très spectaculaire. La foule qui se trouve dans tous ces sanctuaires de Lisbonne a littéralement peur. Hein, ça glace le sang, une secousse comme ça. Et puis, il y a une deuxième secousse, plus longue, horizontale cette fois, dans le sens nord-sud, qui dure environ une minute. Et puis encore une autre, également horizontale, qui dure 2 minutes et demie. Et encore une autre, une troisième encore un peu plus longue, et 11 minutes plus tard, il y en a une autre qui arrive encore. Et des secousses, des tremblements de la terre portugaise, il va y en avoir comme ça pendant plusieurs jours. Les voûtes de plusieurs églises immédiatement se sont fissurées avant de très vite s'effondrer sur des assemblées de fidèles hurlantes. Les balcons des maisons, les encorbellements dans les ruelles, tout ça s'écroule sur les passants affolés. On sait par exemple que l'ambassadeur d'Espagne sera tué en sortant de sa résidence par le blason de pierre qui se trouvait au-dessus du portail et qui s'est décroché. Or, les secousses ont eu pour effet, outre les dégagements gazeux qui maintenant obscurcissent carrément le ciel, de déplacer certains foyers, notamment dans les cuisines, ce qui, dans une ville surencombrée, pleine de maisons encore entorchies et asséchées par cet été interminable dont on avait l'impression de ne même pas sortir, ce qui provoque de multiples incendies. Après l'air qui se sulfurise et la terre qui tremble, voilà maintenant le feu qui s'en mêle. Il ne manquerait plus que l'eau et tous les éléments se seront déchaînés en cette matinée de Toussaint épouvantable. Eh bien l'eau, justement, j'allais dire la voici. La population a cru se sauver en dévalant comme elle l'a pu vers les rives du Tage. Elle ne peut pas se douter que le séisme, dont l'épicentre, je le rappelle, est au large, en mer, ce tremblement a provoqué une gigantesque lame de fond qui est à présent tout près de l'estuaire. Elle remonte, elle commence à fracasser des embarcations. On est en face de ce que les Japonais ont appelé un tsunami. C'est donc un grand mur d'eau de 12 mètres, un immeuble de 4 étages facilement qui déferle sur les grèves de Lisbonne et qui vient faucher la foule des réfugiés qui se noie. L'écroulement des maisons et les incendies avaient fait des victimes innombrables. Eh bien, ce soulèvement de mer en fera au moins autant. Parmi les personnes emportées figurent un certain nombre de personnalités portugaises, mais aussi françaises. Par exemple, le petit-fils du grand dramaturge Jean Racine va faire partie des victimes noyées. Alors, les rescapés, évidemment, complètement paniqués, ils ont l'impression que l'univers entier s'écroule sur eux. Ces rescapés, à ce moment-là, refluent vers la ville. Mais cette ville, dites-vous bien qu'elle est en grande partie détruite. Vous avez, dans Lisbonne et dans ses environs immédiats, quelques 110 églises à terre. 80% des maisons du centre se sont écroulées. Le quartier populaire du Roussio n'est qu'un champ de ruines. où est le roi, où se trouve la cour en ce matin de cérémonie de la Toussaint? Eh bien, tout ce monde-là était parti pour Bethléem, un faubourg de la capitale, afin d'assister à la grand-messe chez les Hiéronymites. Les prêtres, convaincus devant la catastrophe et son ampleur, convaincus d'assister à la fin du monde, se sont abîmés en prières extatiques et la panique s'est emparée de la cour. Et on a vu le roi, José Ier, tout affolé, courir en larmes de l'un à l'autre en demandant ce qu'il fallait faire. « Il faut enterrer les morts et s'occuper des vivants », a répondu un général présent, comme une sorte de leçon de sang-froid au cœur de l'affolement général. Soudain, on annonce au roi José l'arrivée à Bethléem du carrosse de Cavallo e Melo, c'est-à-dire de celui que j'appelle le marquis de Pombal. Au milieu de l'affolement et des scènes d'hystérie, le marquis de Pombal a conservé tout son sang-froid, à ses pleurnichés, « au travail, dit-il, il faut s'occuper des blessés dans un premier temps, il faut réunir tous les corps des morts, il faut bien sûr lutter contre les incendies. » Et ces incendies dont les foyers, vous l'avez bien compris, se sont disséminés à travers les ruines encore fumantes, ces incendies vont durer 6 jours entiers. Il faut aussi, et ce sera l'une des priorités des Portugais, déblayer toutes les voies d'accès, toutes les voies principales. Il est nécessaire d'assainir autant qu'on le peut, car on est dans une époque où immédiatement toute catastrophe se traduit par le développement d'épidémies, et ça c'est presque l'obsession des autorités de l'époque. Et maintenant, pense le Premier ministre, maintenant que la nature a parlé, eh bien, ça va être aux hommes à lui répondre. Quand même, le séisme a fait de très nombreuses victimes. Il y a 250 000 habitants à peu près à Lisbonne à l'époque. On parle de 5 à 10 000 Lisboètes tués dans les décombres eux-mêmes. Chiffre qu'il faut doubler si l'on veut tenir compte des personnes décédées des suites du séisme. Et si vous comptez tout le sud du Portugal, certains historiens vont jusqu'à avancer les chiffres de 55 à 60 000 victimes. C'est donc une catastrophe d'une ampleur considérable, évidemment. Face à la catastrophe qui vient de s'abattre sur Lisbonne, sur le Portugal, face à cette catastrophe qui sidère l'Europe entière, on peut dire que l'action du grand ministre Pombal va être décisive. Elle va s'appliquer dans 3 directions essentielles. D'abord, l'organisation des secours, qui sera un modèle du genre. On va y revenir dans un instant. Plus généralement, on a tenté de pallier les insuffisances de la médecine par ce qu'on appelle alors les secours de la religion. Ça nous fait un peu sourire aujourd'hui, mais ça a été pour cette époque extrêmement important et ça a joué un rôle sans doute utile dans le moral des Portugais. Et puis, du point de vue du Premier ministre, cette énorme catastrophe ne présente pas que des inconvénients, vous l'avez compris, je vous l'ai dit d'emblée. Après tout, lui qui prétendait faire place nette, débarrasser le vieux Portugal de toutes ses pesanteurs, eh bien, il ne peut s'empêcher de trouver dans ce qui se passe une occasion inespérée. C'est une sorte de grand coup de balai naturel, si vous voulez, où les esprits religieux voient un châtiment divin. Ça aussi, nous allions revenir, mais où des esprits plus rationnels voient un symbole fort. Du point de vue du symbole, la ville de Lisbonne, détruite aux 2/3, offre une ruine monumentale. Pombal décide de reconstruire. À la place de tous les quartiers du bas de la ville qui ont été rasés par le séisme, on va installer une ville moderne, rationnelle, fonctionnelle, une cité des Lumières, dont le plan en damier sera sans rapport avec le dédale des anciennes rues médiévales et sera le point de départ de l'ouverture du Portugal au monde moderne. Ainsi, très vite, ce qui apparaissait comme un acharnement du sort contre le pauvre Portugal va devenir, grâce au volontarisme autoritaire, grâce à l'optimisme de fer de Pombal, va devenir le point de départ d'une véritable rupture avec le passé et un sujet de débat, d'interrogation, on pourrait presque dire de philosophie dans l'Europe entière.
Un court extrait de la 41e symphonie de Mozart sur Europe 1. Et nous retrouvons Franck Ferrand et son invité.
Et nous retrouvons donc Grégory Quenet, qui est un spécialiste des séismes et de leur histoire. Est-ce qu'on peut dire, Grégory Quenet, que ce tremblement de terre de Lisbonne, qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire, qui est presque un point de référence dans la chronologie du XVIIIe siècle, est le tremblement de terre qui a été le plus marquant dans l'histoire de l'Europe ?
Oui, assurément. On peut même dire que c'est le premier événement européen, c'est-à-dire le premier événement à avoir été vécu presque instantanément, ou tout au moins identifié comme tel dans les semaines qui ont suivi, par l'ensemble des Européens. Puisque, comme vous l'avez dit, la secousse a été ressentie de l'Islande jusqu'à l'Afrique du Nord et des États allemands jusqu'à Boston. Autrement dit, dans une époque où le système de l'information est encore rudimentaire, la circulation lente, eh bien, chacun a participé à cet événement au même instant, la seconde près. Tout le monde a été lisboète, d'une certaine manière.
Je me rappelle, dans le fond d'Argenson des archives de l'Université de Poitiers, d'avoir un peu dépouillé la correspondance de Madame de Pompadour. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant près de 15 jours, toutes ces lettres ne parlent que du tremblement de terre de Lisbonne, à une époque quand même, 1755, où il se passait, sur un plan diplomatique et même militaire, dans toute l'Europe, un début de renversement d'alliance. Enfin, elle avait quand même d'autres sujets d'intérêt. Or, tout n'est qu'autour, tout tourne, toute conversation tourne autour de ce tremblement de terre. Hein, ça a été...
Oui, tout à fait. Et à la cour, d'ailleurs, il y a même une offensive de l'aumônier du roi contre elle.
Pour
disant la chasser, et signe de contrition, elle renonce à se maquiller, à se poudrer pendant quelques semaines.
Exactement. Et en plus, c'était arrivé un jour de fête religieuse, un jour de Toussaint, donc il y avait évidemment une force symbolique à tout ça. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, est-ce qu'on a ressenti, par exemple ici à Paris, est-ce qu'on a ressenti des secousses du tremblement de terre de Lisbonne?
Oui, absolument. La secousse a été ressentie. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu une sorte de crise sismique dans l'année, disons dans les mois qui ont suivi, pendant un an, et une vigilance et une sensibilité accrue. Les contemporains ont donc été persuadés que le tremblement de terre de Lisbonne non seulement avait frappé ce jour-là, cette heure-là, mais qu'il était suivi de dizaines et de dizaines de secousses. Et en certains points de France, ce ne sont pas moins de 90 secousses que l'on note pendant une année et que l'on relie au tremblement de terre de Lisbonne. Il y a donc un phénomène d'unification de l'espace et d'un tremblement de terre de la nature acteur de l'histoire aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça devient un sujet, un véritable sujet de débat aussi, disons-le, car il faut interpréter ce tremblement de terre. Mmh. Et pour certains, il s'agit d'un châtiment divin. Mmh. Pour d'autres, il s'agit au contraire de la manifestation de l'absurde.
Oui, et la question centrale est celle de la providence divine.
C'est ça.
Puisque si Dieu étant par nature omniscient, comment ne pouvait-il ne rien faire alors que le tremblement de terre allait survenir ? Il étant par nature omnipotent, comment a-t-il pu laisser faire ? Et étant par nature bon, comment a-t-il pu vouloir le mal ? Et la gamme des réponses, comme vous le dites, est finalement va de l'athéisme jusqu'à la soumission et au fatalisme. Et deux positions difficiles à défendre, finalement.
Alors Voltaire, évidemment, on connaît le passage de Candide. Hein, il fait de ce tremblement de terre un événement d'une comment on pourrait dire ça ? D'une absurdité brutale, en fait. Chez Rousseau, en revanche, il y a la marque d'un châtiment devant certains excès humains.
Oui, les deux ont deux interprétations radicalement différentes. Celle de Voltaire est finalement relativement complexe, voire contradictoire. La réponse de Rousseau, en tout cas, est la suivante, c'est que ce n'est pas la providence qui est responsable, car seuls les hommes ont construit une ville de cette importance-là, des bâtiments de plusieurs étages, et donc finalement, ce n'est pas Dieu, mais les hommes. De manière anachronique, ceci a poussé certains spécialistes des catastrophes naturelles à voir en Rousseau un précurseur de la notion de vulnérabilité, ce qui est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, il défend la dimension humaine de la catastrophe. Mmh. Telle n'est pas la position de Voltaire, qui, lui, insiste sur la question du mal, du mal physique et du mal humain, c'est-à-dire que rien ne peut justifier la souffrance d'innocents. Rien ne peut justifier la souffrance d'innocents, et de manière tout à fait neuve, dans le poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, il met en scène cette souffrance. Les femmes, les enfants qui sont écrasés, et par cette mise en scène de la souffrance, il devient presque impossible de dire « mais oui, il est normal qu'un enfant meure parce qu'il... l'homme a péché et cela devient en quelque sorte intenable. Sa position en même temps, comme souvent avec Voltaire, ce procédé ironique de Voltaire, disons qu'il attaque un ennemi pour du mieux détourner l'attention de ce qui est important pour lui.
Évidemment. Voilà. Par quel biais parviennent les nouvelles de ce tremblement de terre ? Qui en donne des relations concrètes, précises ? Il n'y a pas de système d'information à l'époque, bien entendu.
Oui. Plusieurs canaux qui contribuent aussi au succès de l'événement et finalement la pluralité des voix créant des phénomènes de dissonance et contribue à ce que j'avais appelé, reprenant une formule de Pierre Nora, un événement monstre, c'est-à-dire qui se nourrit de lui-même. Les marchands, tout d'abord. Les marchands, vous avez souligné l'importance des marchands anglais à l'époque, des marchands français aussi, de manière secondaire, mais néanmoins. Donc ces canaux marchands transitent, font transiter les informations, informent Voltaire, par exemple, qui a investi dans la région et qui est informé à la fois du tremblement de terre et de ses propres investissements. Les marchands, des réseaux de migrants, par exemple, j'ai trouvé dans le sud de la France, dans la région de Briançon, dans des archives communales, on trouve des lettres de marchands libraires qui ont écrit et donné des informations. Voilà. Enfin, ces lettres sont reprises dans les gazettes, déformées, se contredisant. Et il faut ajouter à cela la lenteur de la circulation d'informations et finalement l'irrégularité des nouvelles qui crée un ressort dramatique, comme dans les lettres persanes, c'est-à-dire que vous êtes informé une fois qu'il est trop tard.
C'est ça. Voilà. Il y a un côté étoile morte dans l'information qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'au moment où l'on sait ce qui s'est passé, eh bien, par définition, c'est toujours trop tard. Par essence même. On a parfois du mal à se replonger dans ce contexte-là, à tenir compte des distances, et qui dit distance dit évidemment retard. Il y a des retards et dans les informations et dans le retour, dans la réaction que l'on peut donner également. Il y a eu dans cette affaire du tremblement de terre de Lisbonne un grand nombre de réactions à contre-temps, oui, disons-le. Du point de vue des Portugais, certaines réactions arrivent évidemment trop tard. Si le séisme revêt une telle importance et si le choc à ce point les esprits de l'époque, c'est parce qu'on ne sait pas comment l'expliquer. Alors là, il y a un véritable débat sur les causes même du séisme.
Oui. Sur les causes physiques.
Causes physiques,
comment peut-on expliquer la transmission quasiment instantanée d'un phénomène à des milliers de kilomètres de distance? Et c'est quelque chose qui a été longtemps un peu oublié, mais il y a eu le débat physique sur la cause et la diffusion des tremblements, des secousses, a été aussi vif que le débat philosophique. Emmanuel Kant, le livre qu'il consacre au tremblement de terre, est un mémoire sur les causes physiques, qui est le cours qu'il a donné à ses étudiants. Il enseignait la géologie en 1756 et qui est un très bon résumé des différentes théories en lice.
Alors la principale, enfin l'une des plus spectaculaires, c'est la théorie électrique.
Voilà. Qui permet d'expliquer l'instantanéité de la diffusion. On est dans le contexte de la découverte des courants électriques, le paratonnerre de Benjamin Franklin, 1754, les expériences de l'abbé Nollet, avec une dimension à la fois savante et spectaculaire de la science. C'est à cette époque qu'on fait des expériences, par exemple pour Louis XV, en transmettant, en donnant une secousse à un garde, et une chaîne de sang garde, le dernier la ressent. Et bien entendu, ceci paraît le plus efficace pour expliquer la diffusion instantanée. Et l'Académie de Rouen organise en 1756 un mémoire sur la cause des tremblements de terre. 10 mémoires sont conservés sur les 16 qui...
Ce sont des concours scientifiques. Ces académies sont des sociétés savantes qui multiplient généralement comme ça les concours d'érudition ou de science.
Ouvert aux plus grands savants comme aux hommes ordinaires. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et le mémoire qui remporte le concours est un mémoire électrique. C'est un mémoire électrique.
Donc c'est ce qui a l'air le plus convaincant aux yeux des scientifiques qui ont jugé.
Voilà, exactement.
Quelles sont les autres théories en deux mots?
Alors les autres théories, ce sont la théorie aristotélicienne, l'équilibre entre les quatre éléments avec des vents à l'intérieur de la Terre. Et pour rétablir l'équilibre, finalement, il faut faire sortir l'air qui est rentré à l'intérieur. Cette théorie est encore en vogue, mais relativement secondaire. Des modèles physiques qui reposent mécanistes sur la transmission du mouvement, c'est-à-dire une explosion de forte puissance qui met en branle la terre de manière souterraine. Ce qui pose d'ailleurs des difficultés pour expliquer comment se transmet le mouvement. Le fameux géographe Philippe Buache, à cette époque-là, réalise une grande carte du tremblement de terre en 1756, et lui il explique ça par les chaînes de montagne. Le mouvement se transmet à l'intérieur des chaînes de montagne. Il y a des interprétations un peu fantaisistes avec l'attraction du soleil aussi par Gautier d'Agoty. Mais voilà, ce sont les deux principales théories, cette théorie mécaniste et cette théorie électrique.
Alors, bien sûr, cette catastrophe choque toute l'opinion, j'allais dire occidentale, en tout cas toute l'opinion européenne. Oui. Que se passe-t-il au Portugal même? Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que cette société tellement pétrie de religion, comme je la décrivais au début de cette émission, va avoir une réaction rationnelle face au séisme? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Alors pendant cette interruption, Grégory Quenet, on se pose beaucoup de questions sur la théorie électrique, semble-t-il, sur cette histoire de courant électrique qui va finalement triompher. C'est l'explication la plus communément admise pour justifier la transmission du mouvement autour de cette catastrophe, de ce séisme de Lisbonne en 1755. Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette théorie électrique ?
La source électrique est assez peu discutée et on a peu d'éléments pour l'expliquer. Ce qu'on explique plutôt avec la théorie électrique, c'est la diffusion, puisque l'on sait à l'époque qu'un courant électrique peut se diffuser à travers une chaîne d'individus, peut se diffuser à travers l'eau, le fameux baquet de Mesmer qui deviendra à la mode dans les années suivantes. Donc c'est cette diffusion électrique qui peut passer par le sous-sol, par des chaînes de montagne. Alors, pour toute proportion gardée, il faut bien voir que nous avons trouvé l'explication des tremblements de terre que très récemment.
Oui, la tectonique des plaques, c'est depuis quand ?
C'est depuis les années 1940 et ça a été validé que dans les années 1960. Donc, cette théorie électrique qui est encore conjoncturelle, hypothétique, finalement n'est pas si mal que cela.
Oui, il ne faut pas en sourire. À l'époque, elle était plutôt probante par rapport à d'autres, en tout cas.
Exactement. Et on a même des projets c'est l'abbé Berthelon qui propose ceci, de construire des paratremblements de terre, c'est-à-dire le principe symétrique du paratonnerre, des tiges de fer enfoncées dans le sol qui vont faire sortir l'électricité. Berthelon propose de construire ça autour des grandes villes italiennes, sujet au tremblement de terre et autour de Lisbonne. Et on a des planches. Ça n'a pas été réalisé, mais il y a des planches de paratremblement de terre.
Oui, donc on essaie tout de suite de trouver une para, néanmoins. Alors, chaque époque a ses peurs. Est-ce que dans les années et dans les décennies qui suivent ce tremblement de terre de Lisbonne en 1755, on voit naître une peur du tremblement de terre, une peur spécifique ailleurs qu'à Lisbonne ?
Oui, on voit naître même, je dirais, une véritable passion des tremblements de terre qui a été en fait préparée avant Lisbonne. C'est cela qu'il faut bien voir. Lisbonne est une sorte de cristallisateur qui crée un débat public et une scène. Mais si l'on regarde les travaux de l'Académie des sciences de Paris, vous avez dans les années 1740, grâce à l'extension des réseaux de l'information, il y a la découverte des tremblements de terre du royaume. C'est-à-dire ces micro-tremblements de terre que l'on connaissait peu.
Et auxquels on attachait quasiment aucune importance.
Quasiment pas d'importance, exactement. Et dont les nouvelles affluent finalement avant et après le tremblement de terre de Lisbonne. Et la France a eu la passion des tremblements de terre pendant une vingtaine d'années. Le tremblement de terre a été la première figure finalement de la catastrophe qui était ce miroir des Lumières. À la fois dans une société qui doit inventer son bonheur elle-même, Dieu s'éloignant, et bien il y a à la fois cette chose exaltante qui est de trouver sa voie et cette peur d'avoir inventé cette voie elle-même.
Et là, l'angoisse prend corps, en quelque sorte. Vous avez publié chez Champvallon, il y a 7 ans, un ouvrage intitulé « Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance d'un risque ». C'est une nouvelle notion qui émerge à ce moment-là ?
Le mot, bien sûr, n'est pas employé.
C'est un
anachronisme. Le terme de risque, là, désigne la manière dont un aléa identifié, on sait qu'il peut survenir, est transformé peu à peu en objet scientifique grâce à un protocole d'observation. C'est à cette époque-là que se met en place le protocole qui consiste à mesurer la durée des secousses, l'heure exacte et l'inclination, permettant de savoir que c'est la même secousse qui a touché différents points éloignés. Donc un objet scientifique, et cet objet scientifique, juridique, politique, lorsqu'il y a indemnisation prise en charge par l'État, peut devenir un objet d'attention générale, un objet public. Et finalement, ce sont ces différentes étapes qui donnent naissance à la notion de risque, c'est-à-dire la probabilité, la possibilité qu'un danger, qu'un aléa survienne.
Alors j'ai raconté, très succinctement, je vous le concède, la succession des catastrophes. D'abord, cette atmosphère soufrée, le ciel qui s'obscurcit, le grondement de la terre, bien entendu, et puis la terre qui bouge vraiment. Et là, premier risque majeur, l'effondrement des édifices. Ensuite, les incendies qui naissent ici et là et qui vont transformer les ruines en une sorte de brasier. Et puis, comme si ça n'était pas suffisant, le tsunami qui vient balayer tout ça. Ça a été quand même, on a l'impression d'une punition biblique, là, objectivement.
Oui, je garderai de donner mon avis personnel. Effectivement, cette succession d'événements. D'ailleurs, la secousse elle-même ne tue pas la majorité des gens. Mm-hmm. Finalement, c'est le tsunami et plutôt même l'incendie. Mais je vais peut-être vous étonner. Les historiens qui ont travaillé sur les catastrophes naturelles, finalement, se sont pendant longtemps assez peu intéressés au terrain même de la catastrophe, vécue. Et ce n'est qu'à l'occasion du 250e anniversaire de Lisbonne que des collègues portugais ont commencé à travailler de manière vraiment approfondie dans les archives pour avoir une quantification et finalement avoir
donc
la catastrophe
2005,
vécue.
Précisément. Voilà.
Exactement, et avoir la catastrophe vécue. Et c'est un des paradoxes de la catastrophe, c'est que c'est une sorte de figure narrative qui met en place une coupure entre un avant et un après et qui fait que souvent on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et pas au pendant. Ouais. Et le pendant est assez loin des idées reçues que l'on a. Souvent, par exemple, ce sont généralement les populations elles-mêmes qui gèrent les catastrophes. Et vous avez parlé de Pombal, mais il y a aussi finalement les réseaux de solidarité sur place. Et ce sont encore des choses à étudier. Et finalement, pour beaucoup de catastrophes.
On se rend compte que parmi les priorités de Pombal, en dehors du déblaiement et de la gestion des blessés, il y a l'organisation des rites religieux, des offices et des actions de grâce. C'est quand même cette dimension religieuse. Alors j'ai dit à quel point la société portugaise était complètement baignée dans un climat de religion, mais même un homme comme Pombal, qui est un homme des Lumières, objectivement, qui est un despote éclairé, si l'on peut dire, même lui accorde à cette partie-là de la gestion de la catastrophe une place déterminante.
Oui. Et il y a chez Pombal une grande intelligence de la dimension, disons, de la manière dont la catastrophe peut ébranler la légitimité du pouvoir et dont il faut recréer l'unité à la fois pour les habitants et par rapport à l'extérieur. Et par exemple, il fait imprimer une fausse gazette datée du jour du tremblement de terre pour donner l'impression que l'imprimerie royale a continué à fonctionner. Il contrôle soigneusement toutes les nouvelles pour donner l'impression que le roi est présent sur les lieux, ce qui était totalement
faux. Tout va bien, nous contrôlons la situation.
Exactement. Et ceci n'est pas contradictoire avec la gestion religieuse de la catastrophe qui donne du sens. Et lorsque l'on donne du sens à une catastrophe, on commence déjà à la surmonter.
Et non seulement on la surmonte, mais on pourrait dire qu'on accompagne ceux qui survivent quand même. C'est-à-dire qu'on leur redonne le moral, si je puis dire.
Voilà. On recrée du collectif.
C'est ça.
On recrée du collectif et toute proportion gardée, lorsque la ville de Manosque est touchée en 1708 par le tremblement de terre qui détruit une partie de la ville, le conseil de ville décide, le 14 jours après le tremblement de terre, trois choses. De nommer des gardes qui vont garder la ville nuit et jour parce qu'elle est abandonnée pendant un mois et demi, d'envoyer des représentants demander une réduction d'impôts, et enfin de fonder un pèlerinage à la Vierge pour la remercier. Et ceci n'est pas contradictoire
en
réalité.
Bien sûr. Ce sont les trois pieds sur lesquels avancent ces gouvernements de l'époque.
Exactement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous avons en ligne le professeur Jean-François Labourdette, qui connaît si bien l'histoire du Portugal. Bonjour monsieur Labourdette.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en ligne. Nous venons donc de voir quelles avaient été dans l'ensemble de l'Europe les conséquences de ce tremblement de terre et puis tous les débats techniques et débats philosophiques sur ces causes et ces conséquences. Mais sur place, au Portugal, quelles ont été les principales conséquences de ce séisme ?
Eh bien, tout d'abord, il faut dire que tout Lisbonne n'a pas été détruite. C'est simplement
la ville basse, en fait. Oui, c'est ça. Oui.
Ce qu'on appelle la Baixa. Et les conséquences furent d'abord, sur le plan humain, très, très, très considérables. Sur le moment, on avait ainsi à peu près estimé le nombre des morts à 70 000, voire 90 000, même 100 000. C'était le chiffre qui était retenu par Voltaire, comme vous le savez. Et Pombal lui-même, qui voulait limiter le désastre, parla de 6 à 8 000 victimes. Alors, beaucoup plus raisonnablement, on peut estimer le nombre de morts entre 10 000 et 12 000. C'est un chiffre qu'un négociant français a proposé au ministre des Affaires étrangères de France, secrétaire d'État.
Oui, sur une population de Lisbonne même qui est à 250 000 personnes, c'est considérable.
À peine. C'est sans doute une des grandes villes de l'Europe, mais qui ne dépasse pas, je crois, en 1755, 200 000 habitants.
Oui, c'est ça. Donc c'est très considérable et bien entendu, c'est surtout très marquant pour tous les esprits. Alors, parlons peut-être de deux types de conséquences. D'abord, une conséquence tout à fait visible, c'est la réurbanisation de toute cette basse ville de Lisbonne.
Tout à fait. Bon, d'abord, il est évident que les dégâts matériels et artistiques furent immenses. Et en particulier, le Paso da Ribeira, qui était le palais royal, et où se trouvaient toutes les collections qui avaient été réunies par le roi Jean V, qui, comme vous le savez, était un très grand mécène. Oui. Et toutes ces collections, en particulier la vaisselle d'argent de Germain, a été complètement engloutie par ce séisme. Tous les grands monuments publics, la patriarcale, qui avait été une œuvre considérable de la part de Jean V, où il avait investi d'ailleurs une partie de l'or du Brésil, la plupart des édifices religieux, les palais de la noblesse, avec toutes les œuvres d'art, avec les bibliothèques, donc un désastre artistique incroyable, un désastre culturel.
Il a fallu tout reconstruire. Là.
Il a fallu tout reconstruire, et le désastre économique ne l'était pas moins, parce que un certain nombre de navires étaient encore chargés dans le port de Lisbonne, et l'alfandega, c'est-à-dire la douane, comme la Casa da India, la maison de l'Inde, ont été détruits, donc entraînant d'ailleurs de graves dommages pour les négociants étrangers, surtout pour les Anglais.
Alors cette reconstruction, elle se fait sous la férule très volontariste du marquis de Pombal, évidemment.
Oui,
qui va en quelque sorte non seulement gérer la catastrophe, mais d'une certaine façon en tirer profit.
Oui, il en a tiré profit, en effet, parce que la panique fut générale. Et il a été le seul à garder son sang-froid dans cette affaire. Le roi, qui se trouvait avec la famille royale dans le palais de Belém, donc en aval de Lisbonne, à quelques lieues en aval de Lisbonne, Belém qui n'a pas été touché, donc le roi était incapable de prendre des décisions. Toutes les institutions du royaume avaient été bouleversées. Et c'est Pombal qui a organisé immédiatement les secours, qui a organisé l'arrivée des vivres, qui a vivement et impitoyablement fait pendre les pillards sans jugement, sans forme de procès. Et également, c'est lui qui s'employa à juguler tous ceux qui pouvaient, disait-il, démoraliser le peuple en lui présentant le séisme comme une sorte de châtiment de Dieu pour ses péchés. Et des prédicateurs, parmi lesquels le père Malagrida, qui sera ensuite l'une des victimes de Pombal, multipliaient en effet les sermons, appelant les Portugais à faire pénitence en procession et à réformer leurs mœurs corrompues et avilies afin d'apaiser la colère divine. Alors ce que Pombal n'admettait absolument pas.
Finalement, Pombal va profiter de la situation pour établir un pouvoir, un régime qui fait furieusement penser à ceux d'un Frédéric II en Prusse ou d'une Catherine en Russie, c'est-à-dire une sorte de despotisme éclairé tel que la deuxième partie du XVIIIe l'apprécie.
En effet, un despotisme éclairé, j'aurais tendance à dire tout simplement un despotisme.
Oui.
Parce que il a établi ce qu'on appelle la Real Mesa Censoria, qui était en fait une censure des livres, et on s'est aperçu très rapidement que cette censure était surtout destinée à empêcher l'arrivée des livres des philosophes français.
Oui.
Les lumières, je dirais, de Pombal sont à prendre avec beaucoup de précautions.
Oui, ce sont des lumières très bornées, en quelque
tout
sorte.
À fait.
Merci beaucoup, Jean-François Labourdette, de nous avoir fait revivre, du point de vue portugais, cette catastrophe. On a peut-être tendance un peu trop, justement, Grégory Quenet, à considérer la catastrophe comme un événement à l'échelle de l'Europe et, comme vous l'avez dit, à oublier ce qui s'est passé sur place même, hein, finalement. Ça a été effrayant pour le peuple portugais, notamment dans les conséquences politiques de l'affaire.
Oui, et aussi dans l'expérience même de la catastrophe, certaines nouvelles rapportent un état d'anomie et désorganisation sociale. Il faut se remettre encore une fois sur le terrain même de la catastrophe, les familles désorganisées, la douleur, les morts, et comment une société réussit-elle à garder ce qui lui donne sens et sa structure. Et certaines nouvelles rapportent des scènes d'hystérie collective, de panique, certains parlent même de cannibalisme, certaines qui sont très certainement inventer des rumeurs, mais finalement, c'est une part sombre qui nous échappe.
C'est ça.
Oui.
En fait, vous parliez au tout début de la notion de providence. Mm-hmm. Il y a presque celle, alors je vais commettre volontairement un gros anachronisme, mais il il y a presque celle d'État-providence. C'est-à-dire que quel est le rôle de l'État, de la monarchie portugaise, de ce Premier ministre Pombal? Quel est le rôle de tous les cadres également, notamment de l'Église du Portugal, dans la gestion d'une catastrophe et dans l'accompagnement d'une population meurtrie?
Une question que se sont longtemps posées les chercheurs sur les catastrophes, c'était d'expliquer ce qu'on appelle la dimension régalienne de la catastrophe. Comment se fait-il que ce genre de situation, dans ce genre de situation, le pouvoir central, le roi, le monarque, le chef d'État, le président de la République, doivent nécessairement intervenir?
Oui.
Et l'hypothèse était que c'était un des fondements de la légitimité du pouvoir. Or, ce que l'on voit historiquement, c'est que finalement, c'est quelque chose de très tardif. Et que pendant longtemps, les souverains se sont bien gardés. Louis XIV, lorsqu'il subit le Villetremblantaire de 1660, son retour des Pyrénées, par exemple, sont bien gardés d'intervenir parce que c'était politiquement dangereux, c'était un signe de mauvais présage, pouvait être utilisé par des... Il faut se tenir loin de la catastrophe. Et ce qui est très nouveau avec Lisbonne, c'est que le cœur du pouvoir est frappé et il doit endosser la prise en charge de la catastrophe. Et même si c'est Pombal qui le fait en réalité, il y a un lien tout à fait nouveau entre l'État, effectivement, et la catastrophe qui ne fera que s'approfondir au cours du XVIIIe siècle.
Et par aboutir à tout ce que nous savons sur les grands bouleversements de la fin du XVIIIe siècle, évidemment. Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance d'un risque, c'est votre ouvrage sur le sujet plus général chez Champvallon, où vous dirigez par ailleurs toute une collection.
Oui, une collection en histoire de l'environnement, qui est la première en France dans ce domaine-là, et qui vise à réintégrer dans notre histoire finalement ce que nous avons oublié, les non-humains, des tremblements de terre, des masses climatiques, des nuages, des animaux, et qui font avec lesquels nous avons une histoire commune mais que nous avons oublié en quelque sorte.
Et je renvoie nos auditeurs à l'ouvrage de Jean-François Labourdette, Histoire du Portugal, tout simplement. C'est une somme parue chez Fayard en 2000. Jean-François Labourdette est également auteur de l'Histoire du Portugal aux Presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je. Merci beaucoup. On se rend compte que finalement, une catastrophe peut avoir des répercussions philosophiques, religieuses, politiques, je dirais des répercussions humaines, tout simplement, immenses et parfois insoupçonnées. Thank you.